section de l'Épître aux Romains qui nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre tout homme qui retient injustement la vérité captive. Et ça me fait penser que vraiment la parole de Dieu est la vérité, qu'aujourd'hui beaucoup essayent de la cacher, essayent de la détourner. Et nous voulons, nous au contraire, la proclamer ce matin. Je vous invite à prendre un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 5. C'est un passage qui est bien connu. Qui se trouve au début de l'évangile, donc au début de l'appel des disciples. Et donc, Jésus n'a pas encore appelé, en fait, ses douze. Et il a commencé son ministère et il se trouve un jour donc au bord du lac de Galilée. Nous allons lire donc Luc chapitre 5 verset 1. Un jour Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. » Ils le jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il dit cela, Simon tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Donc comme je le disais au début, Jésus a déjà rencontré ses disciples, hein, nous voyons dans le début de l'évangile de Jean. Il y a eu une première rencontre et probablement les disciples allaient, venaient, il n'y avait pas encore eu cet appel officiel des douze. Et il y a ici donc une circonstance qui va créer chez certains de ses disciples un impact durable. Et je voudrais qu'on voit au travers de ce texte, finalement, comment Jésus, finalement, appelle et choisit des équipiers. Et c'est très intéressant pour nous, parce que quand on est responsable, que ça soit responsable d'église, responsable d'activité, responsable d'entreprise, on se doit de choisir des collaborateurs, des équipiers. Et ce n'est pas facile de choisir quelqu'un qui convient. Hein, les gens qui font des ressources humaines nous disent combien c'est stressant de recruter. On a peur de faire une erreur de recrutement, on fait appel à des cabinets. Les cabinets eux-mêmes ne savent pas bien, il y en a plein qui font des tests, il y en a même qui utilisent l'astrologie pour recruter. Donc ce n'est pas évident. Et ici, donc, la Bible nous livre des éléments pratiques. Finalement, qu'est-ce qu'il faut regarder pour un responsable, donc je réfléchis au titre finalement qu'on pourrait donner à ce passage, quelles sont les caractéristiques que Jésus recherche chez un responsable appelé? Voilà, ce serait un bon titre pour ce matin. Et donc, qui est responsable ici finalement d'activité? Qui est responsable dans l'église là? Levez la main. Je sais qu'on est une église très déléguée, donc il y a les anciens, d'accord? Levez plus haut. Qui est responsable ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est tout, pas plus? On m'a dit qu'il y avait plein d'activités. Voilà, il y a beaucoup d'humilité, mais je pense que quelque part, on a à la fois peur de se dire responsable, mais quelque part la responsabilité, c'est ce que Jésus nous demande. Puisque dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu confie la terre à Adam, bien il lui dit, il lui confie cette terre pour la cultiver et la garder. Donc Dieu confie à Adam une responsabilité. Le premier homme sur cette terre a eu une responsabilité. Et je pense qu'en tant que chrétien engagé, on se doit d'avoir tous une responsabilité qui peut être très grande. Certains sont comme Billy Graham, ils ont la responsabilité d'annoncer l'évangile au monde entier. D'autres ont peut-être une petite responsabilité, ça peut être une, enfin quand je dis petite en nombre, ça peut être responsable de sa famille, ça peut être responsable d'une école du dimanche, d'un groupe d'école du dimanche, responsable d'un groupe de jeunes, responsable de la musique. Donc il y a beaucoup de responsables finalement. Donc c'est un texte qui peut nous parler. On est tous finalement, on est tous plus ou moins concernés. Et dans nos vies, eh bien, pour prendre une responsabilité, je pense que Dieu va nous tester d'une manière ou d'une autre, comme il va tester ici ses disciples. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Le premier des tests qu'un responsable doit passer, c'est voir s'il est capable d'agir. Alors, tout à l'heure, je vous ai fait un test, je vous ai fait lever la main pour savoir qui est responsable. Alors bon, il y a beaucoup d'humilité, on n'ose pas trop lever la main, mais quand même, est-ce que vous pouvez agir et lever la main pour dire, voilà, je suis responsable? En toute fausse modestie, à un moment donné, on est appelé et il faut prendre sa place. Ce matin, il fallait prendre la place, je me suis levé, et puis je suis dans une grande faiblesse devant vous. Donc voilà, je vais essayer de faire parler la parole de Dieu. Alors donc le premier de ces tests finalement c'est, et pour l'apôtre Pierre, c'est est-ce que Pierre est capable de passer à l'action? Alors qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien on voit au verset 2, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, verset 1, et au verset 2 il y a deux barques. Jésus a besoin d'une barque et Pierre, il a une barque, mais la barque, normalement elle sert à pêcher. Or là, Jésus en a besoin. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est pressé par la foule et il ne sait plus quoi faire parce qu'il recule, il est coincé. D'un côté, il y a la foule qui avance vers lui, de l'autre côté, il y a le village, il est obligé d'utiliser une barque. Il se trouve que là, il y a une barque, mais la barque, elle ne sert pas pour faire des prédications. Vous voyez, là, on a un pupitre qui sert à porter la Bible, le micro, mais la barque, normalement, elle sert à pêcher. Donc, Jésus demande à Pierre, finalement, en gros, est-ce que je peux prendre ta barque pour annoncer la parole de Dieu? Alors, il ne lui dit pas comme ça, mais il monte dans la barque de Simon et il lui demande de s'éloigner un peu du rivage. Alors, qu'est-ce que Simon aurait pu dire? Il aurait pu dire, attends Jésus, on a pêché toute la nuit, on est vraiment découragés. Il faudrait peut-être qu'on retourne, alors on est dans l'activisme, il faut peut-être qu'on retourne pêcher parce qu'on n'a rien pêché. On a besoin de nourrir nos familles, t'es bien gentil toi, tu veux faire tes messages, mais moi j'ai besoin de pêcher. Mais c'est pas ce qu'il fait Simon. Simon, non seulement il met la barque à disposition, mais il obéit aussi aux injonctions de Jésus. Jésus lui demande de s'éloigner du rivage et il donne sa barque finalement à disposition de Jésus. Alors on peut se poser la question, nous aussi, quelle est notre barque à nous? Qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition de Dieu de la même façon que Pierre a mis sa barque à disposition de Jésus? Vous savez que par exemple dans la multiplication des pains, qu'est-ce que Jésus a utilisé pour multiplier les pains et les poissons? Il a utilisé le petit casse-croûte d'un jeune homme. On avait un jeune homme ici qui avait quelque chose à manger, il a donné ce qu'il avait pour à disposition de Jésus. Et on a vu ce que ça a donné. Ici, on a une barque. Pierre donne sa barque. Et finalement, ce texte est consigné dans l'évangile de Luc. Et 2000 ans après, ce texte nous encourage. Donc, quelle est la barque que je peux mettre à disposition de Dieu? C'est peut-être des talents musicaux. Samuel met sa barque à disposition. Meryl met sa trompette à disposition. Suzanne met son violon à disposition. D'autres mettent leur aptitude à parler à leur disposition. D'autres mettent leur aptitude avec les enfants, etc., etc. Donc, quelle est ma barque ce matin? Finalement, quelle est ma barque et en quoi je peux mettre à disposition cette barque? On va lire un passage, alors je n'ai pas du tout préparé, j'espère que je vais le retrouver. C'est la parabole des talents, je vais vous faire participer. Aidez-moi. Je crois qu'elle doit être dans Luc. Alors, on va relire la parabole des talents. Est-ce que quelqu'un trouve la parabole?
Luc 19,
excellent. Merci beaucoup pour votre barque. Ouais, c'est 11, je suis en train de regarder, j'ai pas mes lunettes en plus. Comme la foule, est... tous les obstacles sont là. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été désigné roi, il fit venir ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. Le deuxième vint et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. Il lui dit, toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Ils lui dirent, Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Voilà, donc dans d'autres passages parallèles de Matthieu et de Marc, il y a parlé de cette parabole des talents. Tout ça pour nous dire que Dieu nous a donné à chacun des talents. Alors ici, ça s'appelle, dans Luc 5, ça s'appelle une barque pour Pierre. Il nous a donné des capacités, il nous a donné des moyens. Et ce qu'il nous demande, c'est juste les mettre à la disposition de Jésus. Et c'est ce que fait Pierre ici. Malgré son découragement, malgré le fait qu'il ait passé toute la nuit, eh bien, Pierre passe à l'action. Il donne de son temps, il donne de ce qui est à lui, et il est capable d'agir lorsqu'il y a un besoin. C'est l'un des caractéristiques des responsables. C'est qu'ils sont capables d'agir lorsqu'il y a un besoin. Voilà. Donc, Pierre, ensuite, va passer une deuxième étape. Il y a une deuxième épreuve, donc, qui s'offre à lui. Eh bien, lorsque Jésus finit de parler, Pierre se dit peut-être, bah écoute, je vais récupérer ma barque et je vais retourner à la pêche. Ça tombe bien parce que Jésus va le mettre au défi. Et que fait Jésus? Bah, il lui demande d'avancer là où l'eau est profonde. Peut-être c'est là où ils étaient en train de pêcher. Peut-être que Pierre avait pêché toute la nuit parce qu'il s'est dit, je vais aller en eau profonde, il n'a rien trouvé. Il se dit, je vais peut-être aller ailleurs. Et Jésus lui demande de retourner là où l'eau est profonde. Et il lui demande de jeter ses filets. Et ce deuxième défi que va lancer Jésus à un futur responsable, c'est est-ce qu'il est capable de suivre une consigne? Est-ce qu'il est capable de suivre finalement l'ordre du maître, la directive du maître? Ça suppose bien sûr une certaine confiance. Et lorsqu'on est appelé par un responsable dans l'Église, ben on lui fait confiance a priori, sinon c'est pas la peine de rester. Mais lorsqu'on fait confiance à un responsable, on fait confiance aussi à sa capacité de discernement. C'est comme lorsqu'on fait confiance à Dieu, on se dit, ben Dieu il comprend certainement ma situation, moi je ne la comprends pas bien. Peut-être un frère ou une sœur m'ont parlé de cette situation que je vis, ils m'ont peut-être donné des suggestions qui ne sont pas appropriées. En tous les cas, lorsque Dieu donne une consigne, eh bien, est-ce qu'on est capable de la suivre, d'avoir une certaine obéissance aveugle? Alors, qui dit obéissance aveugle, bien sûr, ce n'est pas suivre la consigne d'un gourou. Hein, on sait qu'il y en a qui se font embarquer dans des sectes. Mais là, est-ce qu'on est capable de suivre, finalement, une consigne qui paraît un peu bizarre? Lorsque Dieu nous demande de faire des choses un peu spéciales, un peu bizarres, lorsque je vous demande de lever la main, bon, oh, j'ose pas trop, etc. Encore, là, c'est pas trop bizarre. Mais parfois, Dieu nous appelle à des choses qui nous sont un petit peu étrange. Et là, c'est une question de confiance. Alors, Pierre avait déjà vu Jésus à l'œuvre. On a vu, il y a eu une première rencontre dans l'évangile de Jean. Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. Alors, Pierre, il n'a pas dû comprendre sur le coup pourquoi il me change mon nom, pourquoi il m'appelle Pierre, etc., Roc. Il ne comprenait pas bien. Mais il avait quand même une certaine confiance au point d'obéir à Jésus. Alors, est-ce qu'il obéit de manière spontanée? Ben justement, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas la confiance aveugle en un gourou où on est complètement aveuglé. Non, là, Pierre, il est lucide. Il est lucide, il raisonne avec son intelligence. Il lui dit, maître, toute la nuit on a pêché, on n'a rien pris. Qu'est-ce que tu connais, toi, la pêche? Moi, je suis pêcheur depuis 15 ans, et toi, là, tu viens de je ne sais où. Tu me changes mon nom, là, tu me dis que je vais m'appeler Pierre, puis tu me demandes de jeter mes filets. Mais qu'est-ce que tu connais à la pêche? Donc il commence à lui dire, maître, il y a une volonté de contestation, nous avons travaillé toute la nuit, tu vois bien, on n'a rien pêché. Et puis après, voilà, il laisse tomber son raisonnement, il laisse tomber sa lucidité, et il fait confiance à Jésus. Sur ta parole, je jetterai les filets. Et là, c'est vraiment le deuxième test du responsable. C'est est-ce qu'on est capable, lorsqu'on est appelé à servir, est-ce qu'on est capable de laisser tomber nos raisonnements? Par exemple, du style, on me demande de faire ça, ouais, mais je suis pas doué, je sais pas comment faire, ou j'ai peur, ou je vais pas arriver à faire ça. Ou, vous voyez, c'est un peu comme Moïse. Hein, on n'a pas trop le temps peut-être, mais vous connaissez ce passage où Moïse conteste avec Dieu sans arrêt. Dieu appelle Moïse et lui, il commence à trouver des excuses. Oui, mais tu comprends, j'ai pas la parole facile. Ah oui, mais ils vont pas m'écouter. Ah oui, et si, ah oui, et ça. Puis au bout d'un moment, Dieu lui dit, bon, bah écoute, j'en ai marre de toi, je vais t'envoyer à Aaron, ça sera ton porte-parole. Mais parfois, c'est bon de relire ce texte et de comprendre qu'il faut lâcher nos raisonnements. Et lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, lorsque Dieu nous demande d'avancer, eh bien, il faut lui faire confiance. Sur ta parole, je jetterai les filets. Et heureusement, la parole de Dieu contient énormément de promesses sur lesquelles on peut s'appuyer. Par exemple, lorsque la Bible nous dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Alors, on peut lui faire confiance. Ça me rappelle aussi ce passage dans 2 Chroniques 20, si on peut essayer d'y aller. J'espère que je vais le retrouver. 2 Chroniques 20, c'est l'histoire du roi Josaphat. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le roi Josaphat est attaqué par les Ammonites et les Moabites. Attendez, je vais retrouver le passage. Ouais, c'est ça. 2 Chroniques 20. Alors on peut lire à partir du verset 5. Josaphat, donc, ils sont entourés par Ammonites et Moabites, ils sont encerclés, il y a les Syriens aussi. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit « Éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? » Là encore, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en introduction du culte, c'est la louange de Dieu qui nous rappelle que Dieu est grand, qui nous fait lever les yeux, non pas devant l'impossibilité de ce qu'on a à faire, mais devant la grande possibilité de Dieu. Je continue, ils l'ont habité et qui ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton Dieu, ton nom, en disant, si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présentons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse et tu nous écouteras et tu nous sauveras. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte, et en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Voilà, donc ce passage qui est un petit peu comme ce passage de l'apôtre Pierre qui dit « Seigneur, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais nos yeux sont sur toi. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Donc c'est utile de connaître la parole de Dieu parce qu'il y a plein de promesses, plein de situations où Dieu a délivré miraculeusement. Et donc se remémorer toutes ces choses nous permet, comme à l'apôtre Pierre, qui connaissait bien sa Bible, enfin au moins l'Ancien Testament, nous permet de dire, bah, Dieu a sauvé le peuple, il a fait traverser la mer Rouge, et aujourd'hui, là, j'ai rien pêché, Jésus me demande de jeter les filets, et avec mon intelligence, je comprends que j'ai pêché toute la nuit, que ça ne sert à rien, mais je laisse tomber mon raisonnement, mon intelligence, je me remets à la parole de Dieu, et sur ta parole, eh bien, je jette les filets. Le test du suivi de la consigne divine. Et le résultat, ben, c'est qu'ils prirent une tellement grande quantité de poissons qu'ils ne pouvaient même plus sortir les filets. Alors la foi, ben, c'est une marche qui se gravit, enfin, c'est un escalier qui se gravit un par un. C'est par des expériences comme ça, toutes petites parfois, plus majeures dans d'autres cas, que finalement, on voit la main de Dieu agir dans nos vies et on peut de plus en plus lui faire confiance et obéir à la consigne divine. Personnellement, moi, il y a 5 ans, donc j'ai changé de métier. J'ai pris un troisième métier qui est un métier d'indépendant. Je suis donc coach et formateur d'équipe, team builder. Et je dois chaque jour rechercher des clients, des personnes pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Et tous les jours, je suis dans cette situation-là, pratiquement. Seigneur, je ne sais pas comment je vais avoir des missions, mais toi, tu vas me les donner. Et j'expérimente un petit peu de ça. Alors, je n'ai pas beaucoup de bravoure. Je peux témoigner que c'est difficile. Mais je peux aussi témoigner que Dieu est fidèle, parce que miraculeusement, eh bien, le filet se remplit de poissons. Gloire à Dieu. Et ces tests, à chaque fois qu'on passe des tests avec Dieu, c'est là que notre foi grandit. Donc un premier test, on a vu, le test, parce que l'aptitude à l'action, est-ce que je suis capable d'agir et de mettre mes talents en disposition. Ensuite, Dieu va me tester, est-ce que je suis capable de suivre ses directives et ses consignes. Et puis, il y a un troisième test. Et en général, plus on avance en tant que responsable, plus l'épreuve est subtile et difficile. Le troisième test, c'est au verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Le troisième test du responsable, c'est comment le responsable va gérer la réussite. Comment est-ce que je vais gérer la réussite? Si je réussis quelque chose de bien, est-ce que je vais dire oh, « Finalement, je suis quand même pas si mal que ça. Hein. » Ou bien, est-ce que je vais me dire « Ok, j'ai fait confiance à Dieu, il a répondu à ma prière, et finalement, la gloire lui revient à lui seul. » Et là, on voit que Pierre réussit cette épreuve. Parce qu'il aurait pu se dire, ah, vous avez vu les gars, moi je suis un pêcheur expérimenté, bon, on a un peu galéré cette nuit, mais regardez l'attaque, le filet il s'est bien rempli. Non, Simon-Pierre il n'est pas comme ça, il tombe au pied de Jésus, il reconnaît que à Dieu revient toute la gloire, que c'est lui qui est à la source de toute chose. Il comprend par la grandeur du miracle, la grandeur de Dieu, ce que Colin nous a rappelé tout à l'heure. C'est que nous sommes mortels, petits, faibles devant lui. Par grâce, il nous donne des talents. Il nous permet, moi je suis émerveillé par des gens qui jouent de la musique. Pouvoir lire, je regardais Samuel tout à l'heure, il arrive à déchiffrer un texte d'À toi la gloire, et en plus il chante les paroles. Ça veut dire qu'il doit y avoir 2 mains qui jouent et une intelligence qui lit des paroles. Moi je suis émerveillé parce que je ne suis pas musicien. Mais tout ça vient de Dieu finalement. Dieu nous donne cette capacité. Alors, il l'a travaillé quand même. Il l'a travaillé. Mais à un moment donné, va toujours se poser la question, à qui revient la gloire? Est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à Jésus? Et quand on réfléchit, c'est difficile. Enfin, pour moi, c'est un test difficile. Parce que souvent, pour diverses raisons, je me dis, bon, finalement, je ne suis pas si mal que ça. Alors, bien sûr, j'ai besoin de me rassurer aussi. Et j'ai besoin, sans arrêt, de me reprendre, et d'autres personnes me reprennent à côté de moi, pour me dire, attends, ce que tu fais, là, c'est pas par tes capacités, c'est Dieu qui te donne les capacités, même si tu les as travaillées. Tout vient de lui et pour lui, disait l'apôtre Paul. Voilà, à qui revient la gloire finalement? Et puis donc on continue, le responsable, on voit que pour appeler un responsable, eh bien il faut voir s'il met ses talents à disposition. Ensuite, il faut voir s'il est capable d'obéir à la consigne. Comme Josué par exemple, pendant très longtemps il est resté dans l'ombre de Moïse, il a obéi à Moïse, il se tenait dans la tente, il ne disait rien, il était là discrètement. Et puis à un moment donné, vient l'action et la réussite. Comment est-ce que je gère la réussite en tant que responsable? Et puis, une quatrième marche, une quatrième étape, si j'ose dire, va s'offrir au responsable. Eh bien, ce que je fais, c'est bien, mais ça va contribuer à quelque chose de plus grand. Et chaque élément qu'un enfant de Dieu va faire avec ses talents va contribuer à quelque chose de plus grand. Et c'est au verset 10, lorsque Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. C'est-à-dire ce qu'il vient de faire, ce miracle qui vient de se produire, il a une portée symbolique beaucoup plus grande. Ce n'est pas le miracle par lui-même qui est important. C'est qu'un jour, ce que l'on fait va contribuer à quelque chose de plus grand. Par exemple, nos faibles voix qui chantons vers le Seigneur, un jour, seront réunies à l'ensemble des cœurs des chrétiens de tous les temps. Il y aura un concert de louanges au ciel qui va contribuer à quelque chose de plus grand. Donc on peut se dire, ce que je fais ce matin, quand je loue le Seigneur, ça va contribuer à un bouquet gigantesque qu'on ne peut même pas imaginer ici. Et c'est aussi la capacité pour un responsable d'essayer de voir plus loin, de voir plus grand, de se dire que ce que je fais aura une portée qui sera peut-être beaucoup plus grande. Ce que je peux dire à quelqu'un, je peux encourager une personne un jour, et ça aura une portée symbolique énorme. Ça me fait penser à... Je sais pas, vous connaissez l'histoire de l'homme de la rue Georges? Ça vous dit quelque chose? Quelqu'un connaît cette histoire? Je vais essayer de m'en souvenir. C'est un monsieur, parce que ça illustre bien cet élément-là. Et c'est une histoire véridique. C'est un chrétien qui raconte comment est-ce qu'il est venu au Seigneur. Et donc il raconte à son ami, il m'a dit un jour, moi j'étais pas converti, je connaissais pas Dieu, et un jour j'ai été rencontré par une personne, un vieux monsieur, qui m'interpelle dans la rue. Moi j'étais pressé, il m'interpelle, et il me dit, sais-tu où tu vas passer l'éternité? Alors le gars, il l'envoie bouler, il dit, écoute, j'ai pas le temps. Mais quand même, il garde cette parole, et cette parole lui a trotté dans la tête, l'a interpellé, et il a fini par se convertir. Je vous passe les petits détails. Et un jour, dans une réunion d'évangélisation, eh bien, il raconte cette histoire, et il y a une autre personne qui vient le voir, qui dit, mais moi je me suis converti, c'est pareil, j'ai rencontré un petit monsieur, etc. Alors, où est-ce que tu l'as rencontré? C'était en Angleterre. Eh bien, c'était dans la rue Georges. Ah bon? Dans la rue Georges? Ben oui, moi, il me semble que c'est un homme à la rue Georges aussi. Et en fait, ils ont fait des recherches. Alors, ce monsieur était mort entre-temps. Mais c'est un monsieur qui passait son temps. C'est vraiment un homme de Dieu simple qui passait son temps à descendre dans la rue, à interpeller les passants et à leur poser cette simple question. Est-ce que vous savez où vous allez passer l'éternité? Et après, il se trouve que des gens du monde entier ont témoigné qu'ils avaient été interpellés par ce monsieur. Ils sont passés un jour dans cette rue Georges en Angleterre, Et cet homme les a interpellés. Alors bon, tous ne sont peut-être pas convertis. Il a peut-être semé sur beaucoup, mais en tout cas, l'impact qu'il a eu dans le monde entier, il a touché les gens du monde entier, simplement par ce petit témoignage. Sais-tu où tu vas passer l'éternité ? Voilà, donc une vision plus grande. Ce que nous pouvons faire de nos talents, si petits soient-ils, peuvent avoir un impact éternel. Lorsque les frères Morave, par exemple, sont partis aux États-Unis quand ils étaient persécutés, eh bien, dans la traversée vers les États-Unis, ils ont rencontré un homme et ils lui ont témoigné. Et c'était un homme comme un autre. Voilà. Sauf que cet homme est arrivé aux États-Unis, il s'est converti, il a commencé à fréquenter les églises, il s'est formé, il s'est développé. Vous savez comment il s'appelait ? John Wesley. Voilà. Un homme. Vous pouvez rendre témoignage à un homme. On ne sait pas l'impact. Vous pouvez rendre témoignage à un enfant. Vous êtes à l'école du dimanche, vous témoignez à un enfant qui est peut-être turbulent, qui vous énerve, vous avez envie de lui mettre des claques, et pourtant vous êtes patient avec lui, vous lui témoignez de votre amour. Peut-être que cet enfant va grandir, va se convertir et va avoir un impact majeur dans le royaume de Dieu. Et juste par cette petite action, eh bien, il y aura un impact énorme. Donc ici, cette pêche miraculeuse, c'est un événement de la vie de tous les jours, mais qui nous est rapporté dans l'Évangile et qui aujourd'hui impacte encore des millions de chrétiens. À chaque fois que ce texte est prêché, eh bien, on note la foi de Pierre, on note le doute de Pierre, on note l'adoration de Pierre au pied de Jésus. Donc le responsable, c'est un petit peu l'épreuve de la vision. Est-ce que j'ai conscience que ce que je fais, si petit soit-il, peut impacter de manière éternelle le royaume de Dieu? Est-ce que je suis conscient que peut-être dans cette église, on va me donner une responsabilité et peut-être je partirai ailleurs et je vais peut-être développer quelque chose de très grand? Et encore une fois, pour la gloire de Dieu, pas pour ma propre gloire. On a des capacités d'impacter des destinées entières. Et puis, le dernier des tests, c'est peut-être le test le plus difficile, c'est au verset 11. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont pêcheurs, ils ont un bon business, mais lorsqu'ils ont vu Jésus, eh bien, ils décident de tout quitter et de le suivre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on abandonne tout ce qu'on fait et qu'on parte? Peut-être. Moi, je me suis converti dans une église américaine, charismatique, et il y avait une propension à pousser les gens à s'engager à plein temps, à tout laisser tomber, gloire à Dieu, etc. Alors, bon, à l'époque, j'étais pas très préparé, mais ça m'a permis aussi de mûrir. Peut-être que Dieu nous appelle, effectivement, à partir très loin, évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. Peut-être que Dieu nous appelle juste à rester dans une église, à édifier l'église, à évangéliser, à témoigner. Peut-être que Dieu nous appelle à rester dans un travail. En tous les cas, ce qui est important, c'est pas de partir à l'autre bout du monde, c'est pas d'abandonner son business, même si parfois Dieu le demande. Il y a des gens qui sont rentrés à plein temps dans un ministère pour le servir ailleurs. Mais c'est surtout, je pense, le test de, finalement, comment je meurs à moi-même et comment je laisse Dieu prendre les rênes de ma vie. Et ça peut être effectivement aller à l'autre bout du monde, comme je disais, mais ça peut être aussi simplement rester. L'essentiel, c'est de suivre Jésus, de laisser ce à quoi on est attaché. Là, peut-être que Pierre était attaché à son métier de pêcheur, il était peut-être fier de son métier, et il avait besoin de couper avec ça. Peut-être que chacun de nous, on est attaché à quelque chose qu'on a besoin de laisser. Et ici, suivre Jésus, ça va à l'encontre des valeurs du monde. Parce que le monde nous dit, développe-toi, prends ta vie en main, fais ta destinée, gagne de l'argent, deviens célèbre, laisse une empreinte, fais-toi un nom. Ça, c'est ce que le monde nous dit. C'est pas nouveau, hein, la tour de Babel. Pourquoi ils ont fait la tour de Babel ? Parce qu'ils s'en fichaient de la destinée de Dieu, c'était « faisons-nous un nom et ne soyons pas disséminés ». Dieu avait dit, disséminez-vous, peuplez l'ensemble de la terre, croissez et multipliez. Et gardez la terre, bien sûr, puisque chacun est appelé à une responsabilité. Babel, c'est réunissons-nous, désobéissons à Dieu et faisons-nous un nom. Et je pense que cette tentation, elle vient aussi à un moment donné, c'est-à-dire c'est le choix qui coûte. Qu'est-ce que je dois abandonner pour être un bon responsable, pour être un bon disciple ? Pour Pierre, c'était abandonner ses barques et abandonner son métier. Parce que Dieu avait juste une destinée pour lui, d'être pêcheur d'hommes, d'être celui qui allait ouvrir l'évangile à différentes nations, qui allait prêcher le jour de la Pentecôte pour lancer donc officiellement la première église. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir renoncer à soi-même d'abord, renoncer à quelque chose. Je ne sais pas, ça peut être très différent selon nous. Moi, j'ai renoncé à mon métier pour aujourd'hui en exercer un autre, dans lequel Dieu m'a appelé, je pense. Donc c'est important ici de comprendre que le disciple, le dernier test du responsable et du disciple, c'est le test du choix. Pierre aurait pu se dire, on a vécu quelque chose de bon, je vais continuer à pêcher. Et probablement, il y en a d'autres qui ont continué leur métier de pêcheur, et c'était très bien. Mais en tous les cas, Jésus appelait Pierre à autre chose. Il l'avait déjà appelé dans l'évangile de Jean. Pierre va avoir d'autres épreuves, il tombera, il se relèvera, il sera restauré dans son appel. Et son appel, c'était vraiment pêcheur d'hommes. Mais quel est mon appel à moi ? Il est différent de celui de Pierre. Donc si on veut résumer finalement sur ce passage, qu'est-ce qu'il nous apprend ? Il nous apprend qu'un responsable, va passer une série d'épreuves. Une première épreuve, est-ce que le responsable est capable de passer à l'action, d'agir et de mettre ses talents à disposition ? Est-ce que le responsable est capable d'écouter la consigne du responsable humain qui l'appelle et de Dieu qui l'appelle aussi ? Est-ce qu'il est capable d'y obéir ? Ensuite, il va passer l'épreuve de la reconnaissance et de la gloire. Est-ce que je vais m'approprier la gloire de ce que je fais ou est-ce que je remets la gloire à Dieu seul ? Ensuite, le responsable sera toujours amené à penser à une vision supérieure, à penser à ce que lorsqu'il fait quelque chose, il le fait pour quelque chose de plus grand. Et enfin, la dernière épreuve, au verset 11, c'est l'épreuve du choix. Est-ce que je suis prêt à abandonner ce qui va me retenir ? Mon péché d'abord, une passion, un engagement, quelque chose qui va m'éloigner de Dieu, une idole finalement. Que Dieu nous aide avec cet exemple de l'apôtre Pierre qui a passé victorieusement ces cinq épreuves, que Dieu nous aide à y voir plus clair, puisque ce sont des épreuves que l'on va tester en permanence, qu'on va subir en permanence. Par exemple, à qui revient la gloire ? Toujours on est sollicité. Si je fais une belle intervention, si je prépare une belle kermesse et puis que la kermesse est bien, est-ce que je vais m'approprier la gloire ou je vais la attribuer à Dieu ? Et c'est très important parce que pour répondre à l'appel de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il faut déjà soi-même avoir réussi ces épreuves. Alors je vous laisse une question peut-être pour conclure, quelle est l'épreuve, quel est le test aujourd'hui que je dois peut-être repasser, même si j'ai 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans de vie chrétienne, l'épreuve que je dois repasser ? Est-ce que c'est l'épreuve de l'engagement, remettre peut-être mes talents à disposition ? Est-ce que c'est l'épreuve de l'obéissance ? Est-ce que c'est l'épreuve de l'attribution personnelle de la gloire ? Est-ce que c'est l'épreuve de la vision ? Ou est-ce que c'est l'épreuve du choix qui coûte ? À chacun de répondre. Moi, j'ai mes questions et je vous laisse les vôtres. Merci.